Dialectique sur RCN, Lionel Courchinou.
Bonjour tout le monde et bienvenue dans Dialectique. Quel plaisir de vous retrouver en ce vendredi. Et aujourd'hui dans Dialectique, nous allons parler de la fast fashion, même de l'ultra fast fashion, un sujet qui domine aujourd'hui hein, dans les médias quand on parle de consommation des vêtements. Et on va se demander comment repenser justement cette consommation de vêtements, comment consommer de façon plus éthique ou alors comment arrêter de consommer. Pour ce faire, j'ai le plaisir d'avoir par téléphone Pierre Condamine qui est chargé de campagne sur production pour les Amis de la Terre. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Odette Beaumont, une habituée des micros de RCN, présidente du FC Que Choisir Nancy, bonjour.
Bonjour.
Joe, qui est représentant du mouvement pour la décroissance à Nancy. Bonjour Joe.
Bonjour à vous.
Et enfin, Charlie, qui est coopérateur bénévole pour Vététique. Bonjour.
Bonjour.
Alors Charlie, je vais vous laisser présenter Vététique. Qu'est-ce que c'est ?
Vététique, on existe depuis 13 ans, je crois. C'est une coopérative qui vend essentiellement du textile issu du commerce équitable. Commerce équitable Nord-Sud, on a les produits du Sud, mais produit dans les conditions du commerce équitable. Et Nord-Nord, on a aussi la production made in France, mais aussi avec des producteurs qui ont une certaine éthique. Quoi. Après, on essaye aussi, on a un petit peu d'alimentaire et on essaye de maintenir aussi l'aspect tout ce qui est objets de sport, ballons, etc. Puisqu'à l'origine, on était une association, un autre sport qui essayait de promouvoir d'un sport éthique.
Alors Pierre, cette émission, on l'a fait un peu autour d'un communiqué de presse qu'on a reçu de la part des Amis de la Terre. Vous avez notamment interpellé le ministre Bruno Le Maire en marge de la Black Friday. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu cette initiative et pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas, l'émission des Amis de la Terre ?
Oui, alors, les Amis de la Terre, nous sommes une association environnementale active depuis les années 70, une des plus vieilles associations de France, et on travaille pour amorcer une transition vers des sociétés justes et soutenables. Et dans ce cadre-là, on travaille en effet sur ce qu'on appelle la surproduction, c'est-à-dire que pour certains biens de consommation, notamment le textile, les vêtements, on produit beaucoup trop par rapport aux limites planétaires et par rapport aux besoins qu'ont réellement les individus. On est vraiment sur une industrie qui crée un besoin. On sait que dans le monde, aujourd'hui, il y a à peu près 150 milliards de vêtements qui sont produits chaque année. En France, on est à 3,3 milliards de vêtements. C'est à peu près 50 vêtements par habitant par an. Et on sait que si on veut respecter l'accord de Paris, parce que ce secteur émet beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre, hein, d'émissions de carbone, il faudrait diviser ces 50 par 10, donc il faudrait qu'on soit à 5 vêtements par habitant par an. Donc il y a un enjeu environnemental, il y a des enjeux sociaux également, parce qu'on sait qu'en bout de chaîne de production, c'est souvent des pays d'Asie du Sud-Est, notamment le Bangladesh, où sont produits les vêtements et où les travailleurs et principalement les travailleuses sont très mal payés, ont des conditions de travail très dures.
Sur cette rémunération au Bangladesh, hein, j'ai quelques chiffres qui nous viennent de l'ADEME, c'est à peu près 0,32 centimes de dollars par heure pour ces travailleurs bangladais. Et sachant que le secteur textile dans ce pays, c'est 17% du PIB et que l'exportation textile du Bangladesh, c'est 59% du marché européen et 26% du marché nord-américain. Donc c'est un pays qui est très important aujourd'hui, dont les productions, dont le travail a de l'impact sur notre consommation ici en France.
Oui, tout à fait. Oui, c'est un pays extrêmement important en termes d'exportation de textiles. Mais donc, en effet, il y a cet aspect social aussi qui est très important, cet aspect environnemental. Et en France, on voit aussi qu'il y a un effondrement petit à petit de certaines marques de l'habillement français. Donc, il y a un peu, un boulevard en termes économiques, social et environnemental à vraiment s'attaquer à ce problème-là de la fast fashion justement un petit peu créer une mode qui soit durable, donc qui produise moins mais mieux, qui rémunère mieux et qui évidemment pollue beaucoup moins. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'on a interpellé Bruno Le Maire. Hein. On n'était pas seulement les Amis de la Terre à faire ça, on était une coalition de 8 associations, dont Zero Waste France, dont Emmaüs France et d'autres associations. Et voilà, on interpelle Bruno Le Maire pour que justement il agisse sur ce sujet-là. Il a mentionné quelques mois auparavant vouloir s'attaquer à Chine, donc cette marque chinoise d'ultra fast fashion. Mais pour l'instant, on a très peu de nouvelles sur ce qui est en cours de préparation et du peu d'écho qu'on a, ça devrait être insuffisant, à savoir une enquête sur un petit peu ce qui n'est pas conforme à la loi et qui est mis en place par Chine. Mais alors on sait que ça ne va pas régler le problème de manière systémique. Et c'est pour ça qu'on a vraiment interpellé Bruno Le Maire, on a appelé les gens à interpeller Bruno Le Maire à agir et à vraiment prendre des mesures réellement ambitieuses pour voilà, créer une mode durable au niveau français.
Est-ce que vous avez eu des réponses par rapport à cet appel ?
Alors pour l'instant non, notre appel reste malheureusement sans réponse. Malgré, on sait, une campagne d'interpellation qui a bien marché. Je pense sur les réseaux sociaux, c'est des centaines de messages qui ont été envoyés. On a envoyé ici une lettre avec demande plus politique sur ce qu'on aimerait vraiment voir dans une loi qui porterait sur la fast fashion. Et pour l'instant, on reste malheureusement sans réponse.
Odette, la pierre vient d'exprimer un peu, de soulever en tout cas quelques questions. Il a parlé notamment de Shein. Et de ce genre de marque, on parle même plus de fast fashion, on parle d'ultra fast fashion. Quel impact sur les consommateurs quant à la qualité des produits qui sont achetés à ces marques-là ?
Alors la qualité des produits, on sait qu'effectivement, c'est du très rapide et très et peu cher, et donc de qualité médiocre, effectivement. Donc par rapport à la consommation, ça veut dire que c'est de la mode jetable. Donc avec tout ce qui va avec, en termes effectivement d'environnement, partage tout à fait ce qui vient d'être dit par rapport aux conséquences de cette ultra fast fashion, effectivement. Et puis, voilà, beaucoup d'autres sociétés aussi, évidemment. Peut-être à une moindre échelle par rapport à Shein. Mais...
Alors, il y a toujours aussi cette question du prix. Bon, si on regarde sur le e-commerce aujourd'hui, alors toute consommation confondue, hein, pas que sur le textile. Aujourd'hui, Amazon en France est le site le plus visité en e-commerce, hein, en moyenne, c'est à peu près 6 millions de visiteurs par jour. Ensuite, il y a Le Bon Coin, Cdiscount, Vinted. Donc, on est sur aussi des sites qui vont pratiquer de la seconde main. C'est peut-être pas forcément une bonne nouvelle, mais ça montre qu'il y a peut-être une prise de conscience de la part des consommateurs ?
Alors, il y a peut-être une prise de conscience. Par contre, dans la seconde main, je pense qu'il y a plusieurs catégories de vendeurs de seconde main et qu'il faut faire la différence entre Vinted, par exemple, où ça devient quelque chose d'énorme, et puis Vinted, dans la mesure où les personnes qui vendent leurs produits sur Vinted sont un petit peu partout en Europe. Ça veut dire qu'il y a aussi beaucoup de transport. Alors que quand on veut effectivement acheter des vêtements en seconde main, on peut trouver localement des magasins, que ce soit des magasins qui sont gérés par des associations type Emmaüs, La Croix-Rouge ou autres, ou même aujourd'hui des boutiques qui vendent de la seconde main avec des produits de qualité. Donc voilà, on conseille plutôt, effectivement, quand on veut acheter de la seconde main, c'est de se rendre dans les boutiques physiques plutôt que de encore, effectivement, faire les achats sur Internet.
Parce qu'il y a des effets pervers et des effets rebonds par rapport à ces achats sur Internet, on y reviendra. Joe, vous, quelle est votre position par rapport à cette fast fashion, à cette ultra fast fashion ?
Alors, disons que le fashion, ça veut dire mode, hein, puisqu'on parle anglais. La mode, on pourrait dire... on se retrouve avec la mode entre une conduite normale ou pathologique, pour citer Ganguilhem. Et à travers la mode, c'est un sujet de 3000 pages, hein, donc fort synthétisé. On est dans une sorte de conduite addictive, un peu éphémère, obsessionnelle, liée à une angoisse, on pourrait presque dire existentielle, en tous les cas occidentale. Et puis, à travers la structuration de l'individu, le moi, le sujet, la personne, puisque moi je suis dans les sciences molles, hein, donc voilà, je ne me suis pas présenté comme ça, mais enfin je suis un peu anthropologue sur les bords. Et donc, on est dans un rapport au corps, dans un rapport à la place du corps à corps, à la séduction, à la reconnaissance, à la compensation, au malaise et au bien-être en même temps par l'habit, la mode, enfin, etc. C'est un sujet anthropologique à lui tout seul, quoi. Et donc, je voulais prolonger un petit peu ce que vous aviez dit tout à l'heure, puisque j'ai eu quelques news concernant le Bangladesh. Il y a eu 3 semaines de grève, de manifestation là au mois de novembre dernier. Donc il y a eu de la répression évidemment. C'est un pays qui est construit économiquement sur son rapport productiviste sur 80% du textile. 80% du textile nourrit le Bangladesh, on va dire. Et donc dans ce textile, on retrouve des marques françaises Levi's, Adidas, Carrefour, enfin voilà pour les marques françaises qui exploitent les pauvres Bangladis.
Adidas c'est allemand. Hein.
Oui, enfin bon.
Enfin, des marques consommées en France, largement consommées en France.
Oui, alors peut-être, mais bon, oui, si vous, voilà, peut-être vous êtes un spécialiste. Elles se battaient, donc c'est essentiellement des femmes qui se battaient pour avoir en gros 200 euros par mois. Parce qu'elles ont un salaire de 65 euros. Hein, une ouvrière du Bangladesh a un salaire de 65 euros. Elle se battait pour 200, elle demandait, enfin on va dire, entre 190 et 200, et elles ont obtenu 104. Voilà, 104 euros, donc en gros 56%. Il y a eu 4 morts. Comme vous le disiez, c'est le troisième producteur au niveau textile après la Chine et le Vietnam, en termes de fashion revolution, enfin, etc. Et donc 80% sont des ouvrières. Et 85% du pays représente son exportation, quoi. Donc en gros, c'est 55 milliards par an, quoi, l'industrie textile qui fait vivre le Bangladesh.
C'est tout l'aspect en fait qu'on ne voit pas lorsqu'on achète un vêtement d'ultra fast fashion. Il y a ces questions-là, donc ce sont des questions sociales, des questions humaines, et il y a aussi les questions écologiques, à savoir que entre 2000 et 2014, la production mondiale de vêtements a été multipliée par 2.
Ouais, c'est ça. Et donc, on s'est retrouvé avec 140 ouvriers syndicalistes qui ont été arrêtés. Ça, personne ne le sait. Il y a eu 10 000 travailleurs qui ont fait l'objet de poursuites pour violence. Enfin, voilà. Donc, ça a été une grève hyper violente dont on n'en parle pas. Hein. Enfin, on a le Hamas, enfin, on a Israël, on a l'Ukraine, encore un petit peu. Et voilà. Enfin, je ne vais pas m'étendre pour être hors sujet, mais on ne parle pas du Yémen, on ne parle pas de l'Éthiopie, on ne parle pas du Soudan. C'est la catastrophe, quoi. Enfin, bon, il y a 1 million d'enfants qui... Enfin, bon, je ne vais pas être hors sujet, mais il y a 1 million d'enfants qui crèvent la fin au Yémen, quoi, en ce moment, quoi. Personne en cause, quoi, tout va bien, on dort tranquille.
Donc le Bangladesh partie de ces... Voilà,
bah, ce que vous voulez dire, c'est la lutte, quoi.
Ces causes dont on ne parle pas dans
l'industrie du textile fait le... Enfin, c'est hyper violent, quoi. Enfin, voilà, c'est un peu... Ça nous rappelle le 19e siècle chez nous en France, quoi. Hein, l'exploitation de l'esclavagisme moderne. Bah, maintenant, on a l'ubérisation, c'est encore mieux. Hein. C'est l'esclavagisme post-moderne. Mais enfin, bon, ils ne livrent pas des vêtements, donc c'est plutôt de l'alimentation. Mais...
Ah bah, y a pas mal de livraisons de vêtements aujourd'hui. Hein, qu'on va, les camions qui transportent. Ouais, ouais. Là, je vais me tourner vers Pierre. Vous avez dit que vous êtes engagé contre la surproduction et pour limiter les déchets. En quoi aujourd'hui, si vous avez quelques chiffres ou quelques faits, vous pouvez nous dire que la surproduction elle affecte l'environnement et quelles sont ses conséquences sur la durabilité de l'industrie de la mode ?
Oui. Alors, quand on parle de surproduction, déjà, on ne parle pas forcément de déchets. Hein. Faut savoir que quand on parle de production de vêtements, l'impact, on va dire, environnemental, enfin, si on parle d'impact carbone, il est entre 60 et 80% lié à la production, que ce soit l'extraction de pétrole, raffinage pour faire des vêtements synthétiques, ou la cultivation de coton, des vêtements en coton. Donc, déjà, quand on parle de surproduction, c'est pas seulement limiter les déchets, c'est en fait tout simplement limiter la production, limiter la quantité de vêtements qui sont produits et ensuite vendus. Et on sait bien que, évidemment, maintenant, il y a de la seconde main, il y a des initiatives qui sont mises en place pour la réparation, etc. Mais ce qu'on voit, c'est que ces initiatives augmentent, mais elles augmentent plus lentement que la quantité de nouveaux vêtements mis en marché. Vous l'avez dit, entre 2000 et 2014, la production de vêtements a été multipliée par 2. Ce qu'on sait aussi, c'est que quand on parle d'émissions de gaz à effet de serre, donc d'émissions carbone, l'industrie de la mode, entre 2 et 10% des émissions de gaz à effet de serre mondiales. Donc
c'est l'équivalent du secteur aérien, quoi.
Ouais, c'est ça. Voire plus, mais même le gouvernement français a dit que c'est plus que l'équivalent du secteur aérien, parce que le secteur aérien, c'est entre 2 et 4%. Là, la mode, il y a des estimations voilà, qui varient, mais disons qu'entre 4 et 8%, c'est quelque chose qui serait assez possible. Voilà, ça dépend de la méthode. Mais on sait aussi qu'avec cette trajectoire croissante de production, ça pourrait atteindre 26% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050, donc un quart des émissions mondiales, ce qui est assez énorme. Et là, je parle évidemment qu'en termes de gaz à effet de serre, mais après, il y a toute la question de l'utilisation des pesticides. 11% des pesticides mondiaux pour le coton, c'est énormément de pollution des cours d'eau. Et on le sait aussi, maintenant, les vêtements, c'est 70% de matière synthétique. Et donc, qui dit synthétique, dit matière en fait en polyester, donc en plastique, et beaucoup de fuites de microplastiques. On estime à peu près un tiers des fuites de microplastiques dans l'environnement seraient dues aux vêtements qu'on lave, qu'on détériore petit à petit. Donc, c'est vraiment un impact qui n'est pas négligeable et qui va croissant. Et qui, évidemment, enfin, le titre, c'est pour ça que je parle de surproduction, encore une fois, ne doit être limité à travers une réduction vraiment des quantités qui sont mises en marché. Parce que ce qu'on voit avec des marques comme Shein ou d'autres de ce genre-là, c'est que c'est des marques dont le modèle repose sur la vente de quantités, de volumes énormes, avec des très faibles marges sur la vente de chaque produit. Et en fait, créent un modèle d'écoulement de leur production. Chine, on sait que c'est 7000 nouveaux modèles par jour.
Ah, ça va même jusque 10 000, hein, parce qu'on sait que sur Chine, on peut scroller et trouver jusqu'à 100 000 vêtements dans leur collection.
Ouais, c'est ça. On estime sur le site web, il y a en moyenne 500 000 types de vêtements différents. Nous, on avait fait une étude qu'on a fait sortir en juin, et qui estimait en moyenne 7000 nouveaux modèles par jour, mais des pics jusqu'à 11000 nouveaux modèles. Enfin, c'est complètement fou. Et en fait, c'est des sites Chine, mais il y a aussi Temu, TEMU, qui est un nouvel arrivant.
Un chinois aussi.
Chinois, qui se battent sur les mêmes modèles, c'est-à-dire on parle de gamification ou de dark pattern, c'est-à-dire tout ce qui est utilisé quand on est sur le site pour nous faire consommer, que ce soit les promos, que ce soit les vêtements à moitié prix, que ce soit les livraisons gratuites, tout ce qui va faire en sorte de jouer sur l'inconscient et nous faire consommer sans s'en rendre compte. Et c'est encore une fois, je refais le lien avec surproduction, c'est un modèle de surproduction qui est créé par les enseignes, par les marques, qui va engendrer une surconsommation. Mais il faut bien comprendre qu'à la base, ce sont les marques, ce sont les enseignes qui, dans cette course au prix, à la compétitivité, et il y a toujours plus de production, vont créer ce système. Et de ce fait-là, c'est le lien que je fais avec la situation aujourd'hui en France, c'est que aujourd'hui, ces marques-là sont très puissantes. Elles sont principalement, il y en a beaucoup qui viennent de Chine. Après, il y a de la fast fashion, Zara, qui est espagnole, etc. Mais qui se base en fait sur beaucoup de production, des prix très bas, parce qu'on l'a dit, on exploite des travailleurs et principalement des travailleuses à l'autre bout du monde. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'en France, on n'arrive pas à être compétitif, j'ai envie de dire, et les marques qui sont un peu dans le ventre mou, qui produisent pas forcément très bien, mais produisent un peu mieux que Chine ou Zara, s'effondrent parce qu'elles n'arrivent pas à être compétitives. Des initiatives, on va dire, plus durables ont aussi du mal à émerger.
Alors on va développer tout ça, notamment aussi avec la lutte entre les magasins en ligne et les magasins physiques. Mais d'abord, on va s'octroyer une petite pause musicale et on va écouter Tété qui nous parle de cette consommation, parce qu'on va parler bien sûr du Black Friday avec ses réductions de prix, parfois très agressifs pour les consommateurs. On écoute tout de suite donc Tété avec « Tout doit disparaître ».
J'ai compté mes points, j'suis gold.
tout doit disparaître. L'ordre, faux slogan, veine, banderole. L'océan qu'on immole, tout doit disparaître. Des stockages imminents, nos lointains reflets bradés dans le couchant. En trois fois sans frais, ça reste commerçant. Tout doit disparaître. Disparaître. Laisse pouvoir d'achat en baisse, nos impasses en attestent. Tout doit disparaître. Solde, obsolescence prévue. Mon frère nous a bien eus. Tout doit disparaître. Des stockages imminents, nos lointains reflets bradés dans le couchant. En trois fois sans frais, ça reste commerçant. Au prix où sont les roses, autant se dire les choses. Souvent quand c'est gratuit, cherche pas ces toiles produits. Les galeries, la faillite, t'as capté la manip. Oh, tout doit disparaître. Tout doit disparaître. Tes stockages imminents, nos lointains reflets bradés dans le couchant. En trois fois sans frais, ça reste commerçant. Des stockages imminents, nos lointains reflets bradés dans le couchant. En trois fois sans frais, ça reste commerçant. Tout doit disparaître. Tout doit disparaître.
Tout doit disparaître.
13h, 14h, Dialectique sur RCN, Lionel Courchinou.
Et on est toujours sur RCN 90.7 dans Dialectique. On parle aujourd'hui de la fast fashion, comment repenser notre consommation de textile et même notre production. Et donc je rappelle qu'on est au téléphone avec Pierre Condamine qui est chargé de campagne sur production pour les Amis de la Terre, Odette Beaumont, présidente du FC Que Choisir Nancy, Joe, représentant du mouvement pour la décroissance à Nancy, et Charlie, coopérateur bénévole pour Vététique. Charlie, Tété parlait de tout doit disparaître dans ce morceau, de brader les produits, de ses soldes, de ses prix agressifs. Il y a aussi le e-commerce qui est très concurrentiel pour vous. Comment lutter lorsqu'on a des Black Friday, par exemple, pour pouvoir déjà insuffler philosophiquement cet esprit de responsabilité quant à la consommation et aussi se démarquer en tant que magasin?
Bah, c'est sûr que nous, dans le commerce équitable, il y a un gros travail de sensibilisation à faire, justement. Nous, par exemple, si on a des produits qui sont vraiment très anciens et qui ne sont plus produits, donc on va finir par les solder pour déstocker. Mais de manière générale, on n'est pas trop fan des soldes, en fait, puisque dans le commerce équitable, l'idée, ce n'est pas de viser le prix le plus faible, mais le prix le plus juste. C'est-à-dire que voilà, il faut payer des gens derrière, et si on solde, bah, ça veut dire qu'on demande des efforts à nos fournisseurs, etc. Donc qu'in fine, bah, ils sont obligés de faire pression sur le travailleur. Donc effectivement, nous, on explique souvent aux gens que bah, c'est pas chez nous qu'ils vont trouver les plus beaux soldes. Mmh. Et qu'il y a cette idée aussi qu'à un moment, il faut prendre conscience du prix d'un vêtement, et que l'argument de toujours le moins cher pour pouvoir acheter beaucoup plus, c'est pas du tout notre créneau. Et que justement, voilà, le commerce équitable veut... C'est une idée de changer de système de pensée, de système de production. Et donc voilà, que nous, il faut qu'on résiste justement à cette tentation de vouloir faire comme les autres magasins, à toujours être sur des prix bradés, quoi.
Pierre mentionnait tout à l'heure le fait que c'est difficile d'être compétitif dans un marché où les prix sont bradés, donc où il y a une exploitation humaine derrière, où forcément les collaborateurs ne sont pas rémunérés à leur juste valeur. Hein, c'est pour ça que certains délocalisent. On a quand même quelques marques qui font de la résistance. Hein, en France, on a Loom, une marque responsable. On a aussi à l'échelle internationale Patagonia qui essaye de... Voilà, qui ne vise pas cette surproduction et qui ne pousse pas forcément à la surconsommation, hein, qui essaie de réguler ses profits. Aujourd'hui, c'est peut-être impossible de survivre quand on a un magasin éthique et qu'on essaye de faire les choses en respectant l'humain, les valeurs sociales. C'est dur de pouvoir concurrencer les autres magasins.
Bah, c'est sûr qu'aujourd'hui, de toute façon, ces derniers temps, le monde du commerce équitable, il souffre un peu. Hein, avec l'inflation qu'on a eue, des prix plus élevés, ça effraie beaucoup. Bon, voilà, on essaie de résister. Après, il y a quand même des beaux projets qui existent. Je ne sais pas si nous, on est revendeur des jeans 1083. Mmh. 1083, c'est du jean made in France, qui a vraiment une dimension éthique et environnementale assez poussée. Ils ont même pour projet de créer un jean à vie où on paye son jean une fois et après, soit on nous le répare, soit on nous l'échange parce qu'ils disent, bah, voilà, nous, votre jean, même s'il est abîmé, on veut bien récupérer ce qu'on peut récupérer du textile pour faire autre chose. Mmh. Donc, il y a quand même des projets qui sont là, qui se battent et qui se maintiennent. 1083, ça grandit. Donc je pense qu'il y a quand même des belles dynamiques qu'il faut savoir soutenir parce que c'est possible, quoi. Mais faut pas être sur les mêmes arguments que ceux qui vont se battre que sur le prix le plus faible, quoi.
Donc est-ce que c'est finalement c'est ça l'avenir souhaitable pour la consommation de textiles, la réparation? C'est que par exemple il y a les ateliers bocage, on peut faire de la location de vêtements, donc c'est de la seconde main, le vêtement est réparé puis reloué, c'est-à-dire on ne produit plus mais on fait avec l'existant. On rafistole les trous, hein, un peu comme il se faisait un temps, hein, ici en Europe, qu'on avait des trous sur les chemises, sur les coudes, on recousait. Et puis c'est même devenu à la mode, finalement, on créait du neuf avec des vêtements qui imitaient le recousu. Donc, quel type d'économie on peut imaginer dans un cercle vertueux pour le textile ?
Après, je ne sais pas si on peut arrêter de complètement de produire du neuf, mais effectivement, l'idée, c'est de se dire qu'il faut quand même viser à produire beaucoup moins. Pour ça, il faut qu'on consomme moins. C'est vrai qu'après, des fois, on fait de la seconde main, mais je vois des fois des dynamiques où les gens ils font de la seconde main, mais ils achètent beaucoup, beaucoup, beaucoup de vêtements.
C'est l'effet rebond. Hein.
Donc voilà, c'est-à-dire qu'in fine, il faut que derrière, on produise beaucoup. Il faut quand même s'astreindre à consommer moins. Et si on consomme moins, bah, on peut mettre un peu plus dans le prix de nos vêtements pour avoir de la qualité, pour avoir des choses notamment produites en France. Et puis finalement, on dit des fois c'est très cher. Bien sûr, on n'est pas compétitif par rapport à des produits dont on parle par ailleurs qui font la fast fashion. Mais après, par exemple, je parle des jeans 1083, c'est le prix d'un Levi's. Mmh. Nous, la plupart des marques qu'on a, on va être sur des prix des grandes marques qui sont consommées aussi par des gens parce qu'ils trouvent ça super d'avoir une belle marque. Mmh. Moi, je suis aussi par ailleurs enseignant. Mes élèves, ils me disent, je veux bien mettre tel prix, mais il faut que ce soit telle marque marquée dessus. Mmh. Mais je dis, comme quoi tu as les moyens d'aller vers ce genre de produit, tu peux. Tu te les payes d'ailleurs. Alors, peut-être pas tout le monde, mais il y a des tas de gens qui peuvent se payer des textiles à ce prix-là, et à ce moment-là, on peut tout à fait consommer éthique, voire consommer français. C'est pas du tout une niche pour personnes qui ont des moyens élevés, en fait. C'est un choix de consommer moins, mais de consommer mieux.
Ça, c'est aussi une vraie question, hein, et je vous la poser, Odette, c'est la question du prix, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se dit, si on veut un vêtement de qualité, eh bien, il faut mettre le prix. Et quand on sait qu'aujourd'hui, en français, il y a plus de 10 millions de personnes pauvres, en tout cas sous le seuil de pauvreté, à moins de 1050 euros par mois, ces personnes-là doivent bien pouvoir se vêtir, etc. Donc, comment s'en sortir? Quels conseils on peut donner aux consommateurs qui nous écoutent, par exemple?
Alors, c'est déjà ne pas surconsommer. C'est-à-dire, effectivement, on se rend compte aujourd'hui que même en utilisant les petits prix, si on achète 10 produits à petit prix, ça fait le prix d'un seul
donc, un prix normal. Prix sur
voilà, donc il vaut mieux mettre le prix sur quelque chose de qualité qu'on gardera plus longtemps, qu'éventuellement on pourra faire réparer. Plutôt que, effectivement, parce que je pense que pour des chaînes, comme on disait, Shine, etc., le nombre de vêtements qui sont achetés dépasse largement ce dont la personne moyenne a besoin.
Donc c'est peut-être déjà. À 3 euros,
tout à fait. Voilà, exactement. On achète 10 t-shirts à 3 euros, on peut acheter un à 30 euros, ou même. Enfin, voilà. Et puis je pense qu'effectivement, il faut aussi maintenant se dire qu'on peut réparer. On en a un petit peu parlé. Hein. Donc, il existe d'ailleurs un bonus réparation qui va être mis en place, comme il existe sur l'électroménager et qui va être mis en place aussi pour le textile et les chaussures. Mmh. Donc ça aussi, c'est quand on ne va pas jeter un pantalon parce que la fermeture est cassée ou parce qu'il est un petit peu décousu. Ce sont des habitudes à changer, mais c'est très compliqué de changer les habitudes. Et je pense que aussi, la plupart, alors des jeunes en particulier qui sont sur leur téléphone de tout le temps, etc., voient des choses, ah bah tiens, ça c'est sympa et c'est pas cher. Mmh. Donc je commande, alors que ce soit effectivement sur Shine ou même en seconde main sur des sites comme Vinted dont on parlait tout à l'heure. Quoi.
Mmh. Oui,
c'est tout, je pense, une éducation à faire effectivement pour consommer de façon responsable.
Et ça, l'économie sociale et solidaire en souffre hein, de l'évolution des,
Vinted,
des sites que vous
dites. Parce que
Emmaüs, par exemple...
Récupère beaucoup moins effectivement de vêtements puisque les gens se disent bah, pourquoi le donner puisque je peux le vendre. Mm-hmm. Mais le problème, c'est qu'effectivement, ça va être revendu et revendu un certain nombre de fois et que ça va faire le tour de la Terre.
Mm-hmm. Mais si on veut compter sur la bonne foi des gens qui nous écoutent, hein, les auditeurs de RCN, par exemple, hein, qui se disent « Ok, moi, je veux bien faire les choses, je vais aller... donner mon vêtement ou alors le mettre dans les bennes qu'on peut trouver pour le textile. Bon, finalement, après des enquêtes, on se rend compte que sur ces bennes-là, il y a seulement, sur 100 vêtements, il y a seulement 6 qui sont réinjectés dans l'écosystème solidaire. Et 50 sur 100 vêtements, 50 d'entre eux sont vendus à des pays plus pauvres, comme le Ghana, par exemple. Et dans ces pays-là, 40% de ces vêtements qu'ils retiennent vont à la poubelle. Parce que soit pas adapté, hein, si on a une veste de ski à Accra, je pense que c'est pas adapté, ou des moufles, voilà, c'est ou alors ils sont pas de qualité, donc pas utilisables, on peut pas les remettre sur le marché, donc finalement on se débarrasse de nos déchets et on crée de la pollution ailleurs. Alors, un transfert de pollution. Hein. Oui.
C'est vrai en partie, effectivement, on se rend compte qu'il y a des dérives dans ce système de vêtements récupérés qui partent effectivement vers certains pays africains, qui font d'ailleurs concurrence à l'artisanat local, et donc c'est pas non plus... c'est pas terrible non plus, et quand ça ne finit pas, comme je crois que c'est au Kenya, où il y a des kilomètres carrés de vêtements qui sont où les gens viennent chercher un peu ce qu'ils trouvent, mais le reste... ce sera perdu, ça va polluer encore plus.
Sachant qu'ils n'ont pas les systèmes pour se débarrasser des déchets qu'on a ici.
Donc, il y a certainement un grand ménage à faire effectivement dans ce recyclage, parce que le principe du recyclage, c'est qu'effectivement on trie les vêtements qui sont encore de bonne qualité pour les revendre. Et je sais qu'en particulier, enfin, il y en a sur le secteur pas très loin de chez moi, donc, où ce qui n'est pas revendu est transformé en isolant. Donc voilà, là c'est... le bon côté des choses.
Le bon côté des choses. Joe, là, on a évoqué pas mal de choses. Vous avez peut-être un petit commentaire sur la vision décroissante, des solutions pour remédier. On peut parler, par exemple, de la réglementation. On peut imaginer comme un système de Nutri-Score, mais sur les vêtements, où des vêtements seraient peut-être taxés s'ils ne répondent pas à certains critères de durabilité.
Ouais, alors moi je voudrais faire un commentaire vite fait. Vous parliez du Ghana, il y a des décharges à ciel ouvert au Ghana qui brûlent en permanence et donc qui produisent aussi des maladies, hein, des symptômes donc chez les Ghanéens, et donc voilà, on n'en parle pas, et puis c'est du gaz à effet de serre permanent, quoi. Oui, alors attendez deux secondes, je voudrais quand même, parce que le sujet n'a pas été abordé, on est sur le fast fashion, donc la mode, donc la modélisation, et donc on est sur moi j'ai envie de dire que quelque part, enfin c'est une question que je pose, est-ce que c'est pas une forme de réponse à une dépression, ce phénomène de mode, une dépression sociétale, identitaire, voilà, une sorte de névrose, entre névrose et psychose, savoir qui on est, dans quelle société on est, quel sens on produit, enfin voilà, enfin je vais pas trop m'étendre, c'est un sujet encore énorme, mais je voulais, avant de répondre, il y a un personnage clé quand même, qui est un anthropologue qu'il faut quand même citer, qui était français, un des plus grands anthropologues français, qui s'appelait René Girard, qui nous a quittés en 2015, 92 ans, donc vous voyez, les sciences molles, ça permet d'entretenir. Je rappelle que Lévi-Strauss est parti à les centenaires. Hein. Mmh. Et Edgar Morin, il vit toujours, hein, il a 102 ans. Hein. Mmh. Donc vous voyez, les sciences molles, ça aide à être dur, quoi, à tenir dur dans la vie. Quoi. Non, enfin, bon, c'est pour l'anecdote. Donc René Girard, enfin, si vous connaissez, tout le monde connaît, bon, c'est pas la peine que j'en parle. Mais,
pour nos auditeurs, on peut toujours en parler.
Oui, alors bon, il a quand même phosphoré pendant des années, enfin, c'est ses thèses, quoi, sur le désir mimétique. Voilà, la publicité, parce qu'on n'en parle pas de la pub. Enfin, alors, moi, quand j'interviens, ça dépend sur quel sujet j'interviens en cours, mais on a les nouveaux alchimistes de la société moderne, post-moderne, sont les publicistes. Pourquoi ? Pourquoi ce sont les nouveaux alchimistes ? Parce qu'ils ont su transformer la notion de désir en besoin, et donc création de besoin. Et comme dirait Bachelard, Gaston Bachelard, notre bien-aimé philosophe et scientifique, disait « l'être humain est plus un être de désir que de besoin hein ». Et donc, sans arrêt, et c'est ce que Pierre disait, c'est, il citait André Gors en même temps, « consommer moins, mais mieux ». Quoi. Hein, et donc, je rappelle que la publicité, c'est quand même le deuxième budget mondial après celui de l'armement, quoi. Mondial, quoi. Hein, enfin, je me trompe pas, quoi. Alors j'en étais resté
dans le budget de la pub, on pourrait régler le problème de la faim deux ou trois fois, il me semble.
Largement. Il y a une étude. Largement, quoi. Donc voilà, enfin bon, je rappelle que Zara, je fais une parenthèse, son chiffre d'affaires c'est 4,13 milliards d'euros. Hein. Donc c'est plus de 27% par rapport à 2021. Quoi, hein. Alors il y a eu une baisse en 2020 parce qu'il y a eu le Covid, etc. Tout le monde a un peu baissé, mais c'est quand même 4,13. Voilà. Et H&M, c'est 20 milliards. Quoi. Donc les actionnaires sont très friands. Hein, voilà. Donc le textile se porte bien, enfin l'industrialisation textile se porte bien. Alors, juste pour terminer avec René Girard, désir mimétique, donc les publicistes, ces grands alchimistes proposent les mêmes objets à tout le monde, donc tout le monde se retrouve, donc il y a forcément un conditionnement des masses, comme disait Marx, mais on est tous dans la masse, hein, voilà, après c'est quel recul on prend, quel recul on a, et donc pour terminer avec René Girard, et parce qu'il intervient sur la mode, entre autres aussi, cette notion de culture de l'éphémère, il y a ce désir mimétique est vecteur de rivalité mimétique. Et donc, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Enfin, voilà, la totémisation des marques et leur représentation. Donc, les marques, les logos, les signes, les symboles. Donc, on est aussi beaucoup dans un monde du symbolisme. Qui sont les nouveaux totems, on pourrait dire, du monde des objets par lesquels l'identification peut se construire, hein, et puis son degré d'appartenance. Moi, entre guillemets, enfin, je ne sais pas pour parler de moi et pour faire de l'égotisme, ça fait, alors évidemment, ça fait, alors, on va dire, 45-50 ans, enfin, 40-20, mais j'ai jamais acheté de fringues de ma vie, enfin, depuis 45 ans, quoi. Hein, sauf sur un vide-grenier, une paire de nu-pieds, parce que je suis en nu-pieds toute l'année, mais à 3 euros, quoi. Donc, c'est que de la récup, quoi. Voilà, je suis habillé récup, quoi. Donc, alors, évidemment, je ne fais pas travailler le système. Puis, chez les décroissants, tout le monde ne fonctionne pas comme moi. Hein. Moi, je suis un peu, résistant. Mais bon, et j'en donne en même temps, quoi, puisque j'en récupère, quoi. Je donne des trucs neufs. Je fais de la récup, enfin, etc. Du jetable, enfin voilà. Enfin, bref. Et donc, alors évidemment, je fais pas tourner le système. Donc, je suis pas un bon capitaliste, voire un bon néolibéral, quoi, avancé, quoi. Hein, mais vous parliez de l'abbé Pierre. Ben, l'abbé Pierre, il n'était pas apprécié par les entrepreneurs parce qu'il créait pas de nouveaux produits. Il faisait de la récup. Et c'est ça qui est génial. C'est un saint anti-productiviste, on pourrait dire.
Quel type d'économie, quelle alternative on peut avoir pour des magasins pour alors ceux qui ont des vêtements à vendre, même pour ceux qui ont des friperies, des vide-greniers, quel type d'alternative vous pouvez proposer?
Bah, il pourrait y avoir un système de formation à la couture, de formation au recyclage. Bah, si vous avez un problème, n'hésitez pas, revenez, c'est compris dans le prix, quoi. Enfin, ou à peu de choses près, vous voyez. Plutôt que d'aller jeter en permanence, puisqu'on est vraiment dans une société Kleenex, hein, enfin, tout le monde l'a dit, tout le monde le sait. On jette même les hommes et les femmes. Il n'y a pas de limite hein, dans le jetable, dans la société de l'Homo sapiens. Là, c'est vachement bien l'évolution de l'Homo sapiens, hein. Excellent, quoi. Et donc, je fais une critique un peu sur nous-mêmes, hein, mais on n'est pas loin. Hein. Et oui, alors, bah, pourquoi pas impliquer un système de bonus, ou alors, je ne sais pas, si on paye 2 euros de plus pour venir si je m'accroche le truc, si j'ai un problème avec la braguette, bon, etc. Mmh. Ben, venez, on vous le répare ici, on vous le répare. Mmh. Il pourrait y avoir un service après-vente comme ça, si vous voulez, intégrer, quoi. Mmh. Et tout à fait naturel, quoi. Plutôt que de, bon, ben voilà, comme vous dites. Alors, le problème, c'est qu'on est dans une société de consommation. Alors, la base, quand même, qu'il faut quand même donner, après, je ne veux pas être trop long, mais nous fonctionnons sur 4 principes. Extractivisme, 1. 2. Productivisme, 3. Consumérisme, 4. Déchets. Voilà. Tant que nous sommes dans une société qui fonctionne sur ces principes d'extractivisme, productivisme, consumérisme et déchets, on ne s'en sortira pas. Et la transition écologique, enfin tout le monde le sait, c'est du leurre, quoi. Enfin voilà. Maintenant, enfin, je vais pas faire du hors sujet. On vous vend des voitures dénommées en greenwashing électrique. Si vous voulez parler français, il faudrait dire des voitures électronucléaires. Donc ça justifie encore une fois les centrales nucléaires. Oui, on va s'en sortir. Alors que le nucléaire, c'est hyper polluant aussi, mais on vous fait croire que c'est du clean. Enfin, on n'est que dans du mensonge d'État, quoi. Enfin, bon, je vais pas m'étendre là-dessus parce que je vais pas être hors sujet. Mais le problème de la société consumériste, c'est que je consomme, donc j'existe. Et donc je consomme, donc je suis. Hein, c'est un peu le cogito ergo sum de Descartes, quoi. Hein. Et donc,
je dépense, donc je suis.
Voilà,
Descartes de crédit.
Voilà. Et qu'est-ce que, comment penser et penser P-A-N-S-E-R. Derrida, il écrivait penser P-A-N-S-E-R volontairement. Il transformait le E en A, Jacques Derrida. Hein, et parce que qu'est-ce que je pense en moi-même, quoi. Hein. Alors moi, évidemment, en faisant que de la récup, quelle est ma philosophie de vie? Bon, bah, moi, je suis un peu un semi-clochard, céleste, enfin, pas céleste, mais bon, voilà. Je suis un vieil hippie resocialisé, moi. Hein. Enfin, je l'assume, j'ai 68 balais, donc voilà. Mais bon, alors, j'ai toujours un peu fonctionné. C'est pas à cause de moi qu'il y a du gaz à effet de serre. Enfin, caricature un peu, c'est pas à cause de moi qu'il y a Le Pen au pouvoir, hein, enfin, etc. non plus. Mais voilà, mais bon, je vais pas m'étendre. Mais...
En tout cas, Joe, on a une alternative en termes de consommation. C'est peut-être de vivre nu, et on va l'écouter, on va l'écouter à travers le morceau d'Adi Oasis qui s'appelle Naked.
Bravo. Voilà la réponse. You and me now, maybe we should head out to the beach now. Got some sand up on your feet now. Tell me about your butt and what you dream about. Cause ooh, there's that look in your eyes.
Champagne too.
I wanna see you naked.
Ooh, yeah. Skin to skin until the sunrise. All night.
Ooh, if you show me what you hide on the outside.
Just you and I, ain't no reason to
jusqu'à 14h, Dialectique sur RCN.
Et on est sur RCN 90.7. On vient d'écouter le morceau de mon ami à qui je passe le bonjour, Adi Oasis, qui nous écoute sûrement depuis New York. On vient d'écouter Naked et peut-être qu'Adi Oasis a la réponse finalement à la question du jour qui est sur la fast fashion. Comment repenser la consommation? Est-ce qu'il faut finalement vivre nu? Bien sûr, c'est pour la boutade. Pierre, on a recueilli quelques questions de notre stagiaire de troisième à qui je passe le bonjour, Sarah, qui s'est posé des questions de jeunes de son âge concernant la mode, les vêtements. Elle demande pourquoi certaines personnes se sont encore moquées en raison de l'aspect de leurs vêtements, de la couleur de leurs vêtements, etc. Ensuite, elle demande qu'est-ce que vous faites, vous les adultes, une fois que vos vêtements ne sont plus utiles, entre guillemets. Est-ce que vous avez des marques préférées? Quels vêtements achetez-vous le plus souvent? Et est-ce que vous seriez prêt à mettre le prix pour un vêtement de qualité? Alors, je vais poser la question à Pierre.
Oui, alors ça fait beaucoup de questions.
Ça fait beaucoup de questions. Vous pouvez en choisir une.
Je ne les ai pas.
Alors, donc, peut-être, qu'est-ce qu'il faut faire des vêtements une fois qu'ils ne sont plus utiles?
On a pas mal évoqué, mais je pense que... Dans une mesure, déjà, ça pose un peu la question de qu'est-ce que l'utilité d'un vêtement. Je pense qu'aujourd'hui, on sait, et je vais encore repartir sur quelques stats, mais les deux tiers des vêtements qui sont jetés ne sont pas jetés parce qu'ils sont troués, parce qu'ils ne sont plus portables, mais en fait, ils sont jetés parce qu'ils sont démodés, parce qu'ils ils ne font plus le poids. Enfin, c'est des vêtements, des modèles tout neufs. Sorti le jour même. Donc, je pense qu'il faut se poser la question de l'utilité d'un vêtement et des deux utilités, à la fois celle de se vêtir tout simplement, ne pas avoir froid, mais l'autre aussi qui a une utilité, on va dire, sociale, de se distinguer, dont on parlait un peu avant. Je pense qu'idéalement, on devrait considérer un vêtement devenu inutile dès lors qu'il n'est plus portable, dès lors qu'il est déchiré, troué. Et à ce moment-là, il faudrait essayer de le réparer. Et on voit même que, à travers ce qu'on appelle l'upcycling, c'est-à-dire réparer un vêtement ou en faire un nouveau qui soit un peu plus à la mode, qui soit assez, assez unique. Mmh. Donc voilà, essayer de réparer, de s'approprier ses vêtements en fin de vie. Et après, si on peut rien faire... Le mettre pour qu'il soit, on l'espère, recyclé. Mais voilà, j'aimerais juste qu'on se trompe pas sur l'utilité des vêtements, parce qu'en fait, cette utilité plutôt sociale, de distinction, il faut bien avoir conscience du fait que ce sont les marques, hein, les Zara, les Chine de ce monde qui créent en partie cette utilité sociale et qui en fait accélèrent le rythme de renouvellement des vêtements pour qu'ils soient de plus en plus à la mode. Mmh. C'est le lien que je fais avec ce que je disais tout à l'heure, qu'en Chine sort 7000 modèles par jour, des modèles qui sont créés par une intelligence artificielle et des algorithmes. On est dans une accélération sans précédent du renouvellement et du besoin de distinction sociale qui est toujours plus présent, qui se voit dans cette accélération, hein, qu'on voit au niveau des vêtements, mais qu'on voit aussi aujourd'hui au niveau de l'information ou dans les réseaux sociaux, tout se renouvelle beaucoup plus vite.
Et c'est même destructeur aussi pour les créateurs de mode, parce que vous évoquez Shein avec cette intelligence artificielle. Il faut savoir qu'elle copie ce qui se fait et ce qui fonctionne, sachant que des marques comme Zara copiaient avant, Shein copie largement et copie aussi Zara. Donc finalement, ils se retrouvent à prendre une grande part du marché et puis en jouant sur des tarifs agressifs.
Oui, totalement. En fait, Chine a une sorte d'algorithme d'intelligence artificielle qui détecte les tendances sur les réseaux sociaux et en utilisant un certain nombre de données, donc je pense même pas que ce soit fait exprès. Personne ne s'est dit on va copier le modèle de Zara, c'est juste que c'est une tendance qui émerge et Chine produit des vêtements. Donc il y a un côté c'est effrayant en termes d'accélération de modèles de production et de consommation. Enfin, on tombe un peu dans quelque chose qui est plus humain, qui est au-delà de l'entendement humain. Mmh. On parle de plusieurs milliers de nouveaux modèles par jour. Mmh. On parle de 500 000 modèles présents. C'est fou. Et évidemment, c'est pas quelque chose que des designers de marques, pas que des humains, pourraient pourrait mettre en place. Quoi. Mmh. C'est impossible aujourd'hui pour des marques françaises de rentrer en compétition avec ça, sachant que derrière les designs de marques, on va dire, plus simples, sont des personnes en fait qui créent des designs. Hein, aujourd'hui, dans les pires marques, dont Chine, sont des intelligents artificiels.
Et vous, avec les Amis de la Terre, comment vous pouvez encourager les entreprises à adopter des pratiques plus durables? Est-ce que vous avez déjà réfléchi à quelques préconisations? Y a sûrement des barrières hein, pour surmonter tout ça dans un processus de commerce plus équitable, avec la compréhension des enjeux écologiques, mais on l'a évoqué, hein, y a une nécessité aujourd'hui de soutenir une économie circulaire, surtout dans ce secteur de la mode, minimiser les déchets, favoriser le recyclage. Est-ce qu'il y a des moyens légaux de coercition pour pousser ces entreprises à être un peu plus consciente et qui pourra dans le même temps permettre à celles qui font les choses dans les règles de l'art de survivre et de ne pas être dans une compétition déloyale.
Oui, totalement. En fait, c'est exactement ce qu'on demande à Bruno Le Maire et ce pourquoi on veut interpeller, c'est d'agir en fait en tant que garde-fou institutionnel et de mettre en place des règles, des lois qui permettent de peut-être pas de mettre fin, mais au moins de ralentir ce système. Alors après, il y a plein de mesures que je ne vais pas détailler, mais nous, notre principale action, elle est envers le gouvernement et vous, l'Assemblée nationale, et en fait, du cadre législatif qui peut être posé. Mais un exemple concret que je peux donner, je pense que quand on parle de Chine, et j'ai encore dit les 7000 modèles jusqu'à 11 000 par jour, c'est énorme. On sait que Zara, c'est 500 modèles par semaine, c'est déjà énorme. Et en fait, ce qu'on propose, nous, c'est tout simplement de mettre un quota ou d'interdire de mettre sur le marché, de sortir autant de modèles.
Alors,
déjà, de ralentir ce modèle-là.
Nouvel an, c'est dans 2 jours. On sait que pour Nouvel An, il y a certaines personnes qui vont acheter un vêtement et puis la fameuse robe de Nouvel An ou le fameux costume qu'on va mettre pour la fête, le costume de gala et finalement qu'on va porter soit qu'une fois dans la vie ou qu'une fois dans l'année. Est-ce qu'on a quelques conseils à donner aux auditeurs par rapport à ça?
Moi, mon conseil, ce serait d'essayer de ne pas la porter une fois dans l'année, enfin que ce vêtement ne soit pas porté qu'une fois dans l'année, peut-être penser lors de l'achat à différents usages, donner à Emmaüs ou de prêter à des gens. Et voire même, enfin, souvent quand on parle de vêtements qui sont utilisés pour une occasion particulière, il y a de plus en plus maintenant de système de service, c'est-à-dire qu'on n'achète plus mais on loue un vêtement pour une période de temps donné. Je pense que réfléchir à des alternatives pour là, ça peut être intéressant. Enfin, je sais qu'il y a un exemple très concret, c'est les robes de mariée. Bon, on utilise qu'une fois pour le coup, là, on n'a pas l'occasion de penser à plusieurs usages, mais il y a des entreprises de location de robes de mariée. Donc, essayer de voir du côté de la location, c'est possible.
Donc là, l'objectif, c'est produire moins et réutiliser un peu plus. Il nous reste 2 minutes pour conclure cette émission. Je vais laisser chacun conclure en 30 secondes. Joe.
Alors, quand même, pour préciser, il y a une loi début 2023 qui s'appelle la loi AGEC qui travaille dans le sens de l'anti-gaspillage. Et donc, du produire moins, c'est exceptionnel quand même, à travers une société productiviste. La loi AGEC, c'est l'interdiction de destruction des invendus. Parce que 80% terminent dans les poubelles, hein, et 12 millions de tonnes de textiles sont exportées à l'étranger, donc, qui viennent d'Europe. Et donc, c'est 40% vers l'Afrique. Enfin, on en a parlé tout à l'heure. Alors, moi, le problème de fond, et après j'arrête, mais c'est qu'on est dans une société néolibérale avancée qui s'est laissée ensorceler, mais c'est vraiment le terme de l'ensorcellement, par le totem de la croissance et via donc le productivisme. Je rappelle que les décroissances sont des anti-productivistes, et dans tous les cas, il faut lever le pied de l'accélérateur. Et nous avons été capables de détruire même la seule planète. Il n'y a pas de plan B, il n'y a pas de planète B. Et c'est Philippe Descola, donc celui qui a pris, on va dire, la réincarnation de Lévi-Strauss, qui dit que le capitalisme a participé à la dévastation du monde. Voilà. Alors évidemment, des croissances sont un peu des utopistes, mais le problème de fond, c'est que il faut s'en sortir, ok, bon voilà, enfin on n'a pas le temps, mais d'en causer dans tous les détails, mais c'est ce que Marx disait déjà, je vais terminer là-dessus, quoi. Il nommait déjà, Marx, il appelait déjà la notion de fétichisme de la marchandise. On est dans le fétichisme de la marchandise. Je termine parce qu'on conclut, mais... on le voit avec les portables, il y a plus de 5,5 milliards de gens qui ont un portable sur la planète Terre. Alors on n'est pas dans le textile évidemment, mais voilà comment on a conditionné. Marx parlait déjà du conditionnement des masses, hein. On l'a dit tout à l'heure, donc on est tous conditionnés, mais essayons de prendre du recul. Et donc comment s'en sortir quand on est dans le fétichisme de la marchandise, quand on est dans l'ensorcellement de la croissance, et donc via le productivisme, et donc comment voulez-vous qu'on s'en sorte, puisqu'on est happé par une sorte d'animisme à défaut de croyances religieuses, voire spirituelles. On est happé par une forme d'animisme de l'objet qui nous renvoie dans un rapport objet-sujet complètement dépendant.
Ok, merci beaucoup Joe. Eh bien, on va devoir conclure cette émission. Donc, je remercie Pierre Condamine, chargé de campagne sur production pour les Amis de la Terre. Vous pouvez aller voir sur leur site cette lettre ouverte à Bruno Le Maire. Odette Beaumont, président du FC Que Choisir Nancy, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Charlie, coopérateur bénévole pour Vététique. Est-ce qu'on pourra avoir l'adresse de Vététique?
C'est au 109 rue Saint-Dizier.
109 rue Saint-Dizier pour les Nancéens. Merci
après,
à tous.
Si je peux me permettre, comme on essaye aussi de nos dynamiques collectives, mm-hmm. on est aussi avec le Colécosol, collectif Grand Est du service au commerce équitable. L'Artisan du Monde et le Fleurin, on tient aussi une case au marché de Vendeuve les vendredis soirs et les dimanches matins. Et on est aussi, pour ceux qui ont envie d'aller vers Strasbourg, à la Copette, on essaye dans une galerie coopérative avec d'autres acteurs de défendre aussi ce genre de dynamique. Donc voilà, on peut nous trouver à beaucoup d'endroits et il ne faut pas hésiter, on a besoin d'aide.
Très bien, et bien on vous rejoindra avec grand plaisir. Merci beaucoup à nos auditeurs. Bien sûr, merci à nos auditeurs de nous avoir suivis dans cette émission dialectique. J'ai pris un plaisir fou toute cette année 2023 de partager ces thématiques avec vous. Je vous retrouve très très vite en 2024 avec plein d'autres thématiques, plein de réflexions philosophiques, sociétales sur les valeurs de la République, sur notre façon de consommer, sur la façon de s'entendre et de faire société. Merci à vous pour votre fidélité et à l'année prochaine.
Cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to?